Bonjour, vous êtes sur RVM, Radio Valois-Mulsien, et tout de suite, un extrait du Forum Science qui s'est déroulé en juin 2024 à l'espace Saint-Pierre de Senlis. Bonne écoute!
Deuxième table ronde sur la biodiversité. Et pour ça, on reçoit Aurélie Bouteille.
Bonjour.
Vous êtes de l'école de Barberie, vous êtes quoi?
Petit, moyen, grand, en maternelle, enseignante.
Enseignante. Et Grégory Brouillard, vous faites partie de la LPO.
La LPO, bonjour. En tant que chargé d'études biodiversité, et j'interviens aussi au niveau des groupes scolaires sur l'éducation à l'environnement et au développement durable.
On va commencer par vous alors.
Ah ben c'est parti.
Vous intervenez dans quelles écoles?
Toutes les écoles de l'Oise, mais je déborde aussi de l'Oise. Il m'arrive de me retrouver dans l'Aisne, dans le Pas-de-Calais, dans la Somme, un petit peu partout.
Et c'est pour des interventions ponctuelles?
C'est pour des interventions ponctuelles.
Pour le forum, c'est plus régulier, non?
Pour le forum.
Il y a des écoles où c'est plus régulier, non?
Alors oui, là actuellement, on intervient avec le groupe scolaire Anne de Kiev, etc. Oui, on a des suivis avec des écoles sur Senlis, par exemple, sur du plus long terme. Oui.
Donc la LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux, mais c'est pas que ça maintenant.
Alors aujourd'hui, non. Enfin, on a gardé le nom LPO, effectivement, parce que c'est un nom très connu. Mais aujourd'hui, la mission de la LPO, c'est la biodiversité dans son intégralité, en fait.
Qu'est-ce qui est le plus menacé? Les oiseaux ou les abeilles ou quoi en fait?
C'est toute la biodiversité. Quand j'interviens auprès des scolaires, que ce soit les écoles primaires, collèges ou lycées, etc., sur n'importe quel sujet, mais ma première intervention, en fait, la première explication que je leur donne, en fait, je leur montre un graphe tout simplement. Et je leur montre que ces 50 dernières années, on a perdu 69% du vivant. Voilà. Ah. Donc toute espèce confondue. On a perdu 30% des zones humides, on a perdu plus de 50% de la mangrove, etc. Donc tout le vivant dans son intégralité est vraiment touché, quoi.
Oui, mais moi je vais vous poser une question un peu décalée. S'il n'y a plus d'éléphants, ça ne va pas me toucher?
Ça ne va pas vous toucher vous, mais directement. Mais en fait, l'éléphant fait partie de la chaîne dans son intégralité. C'est une espèce parapluie et elle aura un impact. Ça aura un impact sur d'autres espèces.
C'est un équilibre qu'il y a dans la.
C'est un équilibre en fait. En écologie générale, on appelle ça le climax. C'est un point d'équilibre qui fait que si on dérègle quelque chose, eh bien l'ensemble est déréglé en fait. Voilà.
Aurélie Bouteille, alors vous êtes de l'école de Barberie. Oui. Vous intervenez sur plusieurs classes?
Sur une classe avec des élèves de maternelle, ouais. Petite, moyenne, grande section.
Alors comment ça se passe avec la LPO?
Avec la LPO, donc nous on fait un projet avec le forum des sciences et en lien avec le pôle ressources de Senlis et l'inspection. Et on a la LPO qui va venir intervenir pour mettre en vie en fait ce qu'on aura vécu en classe. Donc nous, on a travaillé en classe sur les oiseaux avec tout un module, avec le module de la main à la patte, pour que les enfants puissent comprendre ce qu'est un oiseau, les distinguer des autres animaux, comprendre les caractéristiques et leurs différences en fonction des régimes alimentaires et des petites caractéristiques comme par exemple l'imperméabilité des plumes, la forme des becs, etc. On va aussi travailler sur les chants des oiseaux et du coup, on va mettre tout ça en lumière, avec une sortie avec la LPO qui est prévue le 1er juillet.
Ah, ça sera la fin de saison pour,
voilà, c'est ça.
Pour rendre compte de ce que vous avez fait dans l'année.
Exactement.
Concrètement, ils font quoi, les enfants?
Des petites expériences en classe. On lit des documentaires, ils font des expériences. Donc, par exemple, avec l'imperméabilité de la plume, on a des plumes de différentes tailles. Ils font glisser de l'eau dessus et ils s'aperçoivent, en fait, par l'expérience, que l'eau ne passe pas à travers. On a aussi une petite caméra, microscope caméra, pour observer les plumes, les barbules, etc., pour expliquer un petit peu comment sont faites les plumes.
Vous travaillez avec les familles aussi, non?
Avec les familles, oui. Oui, les familles ont été sollicitées pour apporter des documents, tout ce qu'ils avaient à la maison, des documentaires, des livres, des albums, etc., des plumes, des œufs, pour justement impliquer tout le monde. Et beaucoup de familles, j'en ai 9 sur 20 qui participent aujourd'hui, qui viennent voir l'exposition.
Et on demande aux enfants de regarder les oiseaux le soir ou des choses comme ça?
Voilà, c'est ça. On part déjà de leur hypothèse, de leur représentation initiale. On leur demande comment est-ce qu'on sait qu'à l'extérieur il y a un oiseau, est-ce qu'il laisse des traces. Donc on part de leur représentation initiale pour après enrichir et partir sur des vraies représentations.
C'est quoi les principales questions qu'ils ont les enfants à partir de 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
C'est ça, donc Grégory.
Les principales questions, alors quand vous êtes avec des scolaires, des questions ça n'arrête pas, il y en a partout. On commence à parler d'un sujet, les mains se lèvent et bon, il y a beaucoup d'anecdotes, mais il y a énormément de questions aussi. Quoi. Enfin, en général, les anecdotes, c'est chez mon papy, j'ai vu ça, etc. Pour les questions, c'est des questions, ils essayent de comprendre par exemple pourquoi le pic va manger les petits insectes dans l'arbre, etc. Comment ils font pour attraper les insectes. Alors, ils sont absolument stupéfaits quand ils apprennent que le pic enroule sa langue autour du cerveau. Pour eux, c'est absolument merveilleux. Enfin, des questions, il y en a énormément de toute nature.
Ça intéresse tous les enfants ou pas ?
Oui, ça intéresse tous les enfants, tous participent et sont vraiment friands des projets dans ce style.
Bon, tout à l'heure, on parlait avec M. Legrand qui était inspecteur de l'académie. Est-ce que ça fédère les classes ?
Oui, ça fédère. Moi, je trouve que ça fédère les classes. Tout ce qui est projet, en fait, fédère. Donc là, c'est la deuxième année qu'on participe au Forum des sciences et un travail autour de la biodiversité. L'année dernière, on avait travaillé sur les fourmis. Et en fait, ils voient aussi différemment l'environnement grâce à ça et sont beaucoup plus respectueux, en fait. Maintenant, ils ne vont plus écraser les fourmis dans la cour. Ils vont vraiment en prendre soin et les observer. Moi, je vois vraiment une différence de comportement.
Vous avez des enfants moins turbulents ?
Non, pas forcément. Mais voilà, ils vont peut-être passer plus de temps en observation de cour. Donc peut-être, à ce moment-là, être moins turbulents. Mais après, quand ils sont dans d'autres jeux, bon, ça ne change pas grand-chose.
Quand on a 5 ou 6 ans, est-ce qu'on est conscient de ce qui se passe vraiment ?
Ils sont très conscients. Enfin, moi, j'ai été stupéfait quand j'ai commencé l'éducation à l'environnement. En fait, c'est de me rendre compte qu'on les amène au dialogue, on les amène à expliquer ce qui se passe. Et ils sont tout à fait conscients de ce qui se passe, en fait. Ils comprennent très bien ce que j'explique. Par exemple, moi, quand je commence aussi mes ateliers, je leur montre, j'ai une affiche à 3, et puis je leur montre des logos, tout simplement, de marques qu'ils connaissent très bien. Et ils les connaissent toutes. Hein. Et puis après, je leur demande de retourner la feuille à 3. Et puis au dos de la feuille, il y a les 12 espèces d'oiseaux les plus communes de France, en fait. Et ils en connaissent un ou deux. Et là, par déduction, ils se rendent compte qu'en fait, ils connaissent très peu leur environnement, leurs parents aussi. Et je leur demande de m'expliquer pourquoi ils ne connaissent plus. Et bien, ils me disent parce qu'on ne va plus en forêt, parce qu'on passe du temps derrière les écrans, derrière les ordinateurs, derrière les tablettes, etc. Enfin, ils savent très bien... La démarche se fait vraiment naturellement de comprendre le pourquoi du comment et ils ne connaissent plus leur environnement.
Est-ce que, par leurs questions, les enfants, on sait si les parents sont intéressés à la biodiversité ou pas ?
On le voit au comportement des parents. Ouais. Voilà. On en discute souvent avec les maîtresses, etc. Voilà, c'est souvent, il y a un problème d'éducation des parents avant les enfants, en fait. Les enfants ne vont plus en forêt. Les enfants ne regardent plus, mais c'est parce que les parents ne vont plus en forêt, ne regardent plus. Et voilà, clairement, oui.
Donc c'est aux enfants d'éduquer les parents ?
Alors moi, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, quand je parle du téléphone portable, je dis, mais dites-le aussi à vos parents, parce que les parents, des fois, ils vous font la morale, mais c'est les premiers à être scotchés derrière leur téléphone portable. Voilà. Qu'entre aller faire des courses dans un centre commercial, bah, il vaut mieux aller se balader le week-end en forêt. C'est quand même beaucoup plus gratifiant. Et voilà.
Alors Aurélie Bouteille, vous avez un stand ici. Qu'est-ce que vous avez ramené ?
Alors on a des œufs de différentes espèces. Donc de différentes tailles, œufs d'autruche, œufs d'oie, œufs de poule et œufs de merle. Ensuite, on a une petite poule synthétique, mais avec un petit œuf et un petit poussin pour travailler de l'œuf à la poule. J'ai aussi ramené une plume avec un petit arrosoir justement pour tester et faire la petite expérience de l'étanchéité de la plume. Et ensuite, il y a une petite caméra pour regarder aussi les plumes de plus près.
Les enfants ont fait quoi ? Des dessins, des choses comme ça aussi ?
Les enfants ont aussi, j'ai aussi ramené tout ce qu'ils avaient fait. Alors on a fait des petits mobiles hein, avec des petits oiseaux. On a créé des oiseaux à partir de matériel recyclé, des oiseaux aussi en argile. On a fait différentes activités artistiques pour travailler sur le thème. On a lié les sciences avec l'art.
Alors Grégory Brouillard, l'ALP aussi a un stand ?
Oui, absolument.
Vous êtes intervenu sur quel type de classe ? Toutes les classes jusqu'au collège ?
Toutes les classes, oui. Collège et parfois lycée. Oui. C'est pas du tout la même approche. Alors, principalement, majoritairement, sur les écoles primaires, en fait. Ouais. Mais les maternelles aussi. On arrive à avoir des ateliers auprès des tout-petits et ça fonctionne très, très bien. Quoi.
Alors, sur votre stand, vous avez ramené quoi, vous ?
beaucoup de documentation, du matériel d'observation, des jeux pour apprendre et reconnaître les chants, en fait, les chants d'oiseaux. Et enfin voilà, énormément de présentations. L'éphéméride de la biodiversité, par exemple, aujourd'hui, qui est un grand programme de la LPO, auquel les enseignants peuvent s'inscrire gratuitement, en fait. Et ça permet de voir au jour le jour, d'avoir une activité autour de la biodiversité, de la nature en général, tous les jours en classe, visionner une petite vidéo, avoir un jeu, un coloriage, une activité chaque jour, en fait. Voilà.
Valérie, tu as une question ?
Oui, alors quels sont les conseils pour justement protéger la faune sauvage ? Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux auditeurs ?
Aux auditeurs, c'est aujourd'hui, si vous avez un jardin déjà, c'est faire revenir la biodiversité, tout simplement. Quoi. Alors on parle toujours des gazons tondus ras, il faut arrêter un petit peu. Il faut redonner de la vie, de l'espace à la biodiversité. Vous avez un très très bon programme qui marche depuis 1912 à la LPO, qui est les refuges LPO. Vous pouvez devenir refuge LPO, donc c'est vraiment une somme modique. Vous inscrivez sur le site internet, vous allez recevoir un kit et un accompagnement, et vous allez avoir tous les conseils en fait pour faire revenir la biodiversité chez vous.
Alors c'est quoi ce kit ?
Alors ce kit, il va par exemple y avoir un kit à hérisson, plein de petites astuces, à quel moment on met les mangeoires, à quel endroit, comment mettre un nichoir, c'est plein de petits conseils pour faire revenir vraiment la biodiversité chez soi. Ça peut être un hôtel à insectes, etc. Il y a énormément de choses. Et puis c'est aussi un engagement à avoir des pratiques raisonnées, vertueuses vis-à-vis de la biodiversité. Voilà.
Très bien. Quels sont les oiseaux qui sont en perdition dans notre région ?
Dans notre région, c'est plus ces oiseaux des champs, je dirais. Les oiseaux des champs, alors je vais essayer de ne pas être polémique, mais aujourd'hui, c'est vrai que l'utilisation des intrants, des pesticides, c'est vraiment dramatique. Vous prenez l'alouette des champs, en l'espace de 30-40 ans, elle a perdu 80% de sa population. Quoi. Donc, mais c'est toute espèce confondue. Vous avez des espèces opportunistes qui, elles, se portent très très bien, mais il y a une régression générale des oiseaux. Quoi.
Très bien. Hervé ?
Les hirondelles aussi sont en perdition ?
Les hirondelles. Je travaille sur le projet inventaire hirondelles martinées cette année, justement. Je coordonne le projet en Hauts-de-France. Les hirondelles et les martinées sont... Ça va pas bien du tout, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, il y a le plan de rénovation énergétique des bâtiments. Ici, sur Senlis, justement, j'ai tourné sur Senlis l'année dernière. J'ai fait des inventaires et on ravale les façades, on refait l'isolation, etc., et puis on détruit les nids, sans savoir que derrière ce sont des espèces protégées et que c'est passible de 150 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Mais les gens ne le savent pas. Et justement, on inventorie toutes ces colonies pour communiquer avec les municipalités, les bailleurs sociaux, etc. Pour dire attention, vous avez des nids, il faut reposer, vous ne pouvez pas faire des travaux à n'importe quel moment. Et puis il faut réinstaller des nids artificiels en compensation. En fait. Voilà, il y a tout un suivi à faire. Et, voilà.
Et alors juste ma petite question décalée. Alors, si vous étiez un oiseau, lequel seriez-vous
Une cigogne, je pense.
Et pourquoi la cigogne ? Parce qu'il y en a tellement d'oiseaux.
Il fallait en choisir un, donc j'ai choisi celui-là. pour les voyages, le revenir à la maison une fois par an. Et...
C'est vrai quand même.
Comment ?
La cigogne, c'est elle qui porte les enfants quand même.
En plus.
C'est ça.
C'est pas mal. Et vous ?
Un hibou des marais.
Et pourquoi le hibou des marais ?
Parce que j'adore les rapaces nocturnes. Alors le hibou des marais, on peut le voir en plein jour aussi. Hein. C'est un rapace nocturne qu'on arrive facilement à voir en plein jour. Et puis j'adore les zones humides en fait. Voilà.
Très bien. Et Hervé, ton oiseau préféré ?
Le goéland.
Ah.
Jonathan ?
Radio Valois-Mulsien, c'est aussi sur internet et en direct.
Et pour cette table ronde sur la biodiversité, nous avons reçu Grégory Brouillard de la LPO et Aurélie Bouteille de l'école de Barberie. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci beaucoup. RVM.